Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Plus de 10 millions d'électeurs ont donc décidé de déposer un bulletin pour le Rassemblement National ou l'un de ses alliés lors du premier tour des législatives. Un score sans précédent. Il est supérieur aux 8 millions de bulletins de Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle. Alors qui sont les Français qui ont voté pour le RN hier? C'est ce que nous allons voir dans notre séquence « Les éclaireurs ». Bonsoir Karine de Ménonville.
Bonsoir Yves.
Âge, profession, milieu social, qui vote pour le Rassemblement National en juin 2024? Dites-nous.
On va essayer d'apporter les réponses, mais on va tout d'abord partir d'un chiffre et d'un constat. En deux ans, le nombre d'électeurs Rassemblement National a plus que doublé. On est passé de 4,2 millions de voix aux législatives de 2022 à 10,6 millions. Voilà pour le constat. Oui. Alors, qui sont ces électeurs? On a longtemps parlé d'un électorat jeune, d'un électorat masculin. Une enquête Ipsos évoque à présent un nouvel électorat diversifié et élargi. Et il faut le savoir que, par exemple, il y a autant de femmes maintenant que d'hommes qui votent Rassemblement National. 32% des femmes, plus 15 points en deux ans. Et en ce qui concerne l'âge, pour les 60-69 ans, 35%, c'est le premier bulletin, le premier parti choisi. Alors, côté profession, il y a toujours ce socle solide qu'on retrouve, 57% des ouvriers, 44% des employés, mais ça s'élargit là encore. Chez les moins de 35 ans, ils sont 32% à avoir voté Rassemblement National, plus 14 points. Chez les cadres et les plus diplômés, 22%, plus 11 points en deux ans. Et chez les retraités, plus 19 points, 31%, c'est le premier parti choisi, encore une fois. Alors, autre image qui ne va plus, celle d'un Rassemblement National qui ne séduirait que les classes les moins aisées, les plus populaires. Bah, ça semble dépassé parce que dans cette enquête, finalement, c'est le premier parti choisi par ceux qui ont un revenu par foyer de plus de 3000 euros net à 32%, mais aussi par ceux qui ont un revenu de moins de 1250 euros mensuel net, 38%. Alors, dernier indice, eh ben, il est important, le Rassemblement National, il attire les déçus. Oui. Ceux qui sont déçus par leur vie, à 50%, ceux qui sont déçus par Emmanuel Macron, à 42%.
Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Alors, Roselyne Bachelot est restée avec nous. Et nous sommes rejoints par Hervé Lebras, historien, démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je rappelle votre fameux atlas des inégalités chez Autrement Flammarion. Mathieu Souquer, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de 2022, La flambée populiste, paru chez Plon. Charles Sapin, journaliste politique au Point, auteur des Moissons de la colère plongée dans l'Europe nationaliste aux éditions du CERF. Et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Hervé Lebras, il y a de plus en plus d'électeurs qui votent pour le RN, on l'a compris. Est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de raisons différentes, selon vous, qui sont avancées par ces électeurs pour choisir un bulletin RN? Comment analysez-vous le vote aujourd'hui et ses motivations?
Oui, c'est très difficile. Il y a eu beaucoup de motivations différentes. On vient d'en voir deux. Oui. On vient de voir le fait qu'ils ne sont pas contents de leur situation. Là, il y a une partie qui peut être expliquée, puis le fait qu'ils ne soient pas contents de Macron, je crois que là, c'est assez évident. Mais il y a d'autres éléments.
Lesquels?
Je pense que c'est, il y a un élément qui est lié à l'absence de démocratie qui s'est, au fond, manifestée de plus en plus. C'est-à-dire, ils ont l'impression d'être soumis à Jupiter, comme on le dit. Et c'est lié aussi au fait qu'il n'y a plus de corps très peu de corps intermédiaires. C'est par exemple les maires des petites communes et des autres ont été dépossédés de la taxe d'habitation, ce qui était un point très important pour eux pour gérer leur commune. Les conseillers départementaux, les anciens conseillers généraux ont perdu pratiquement aussi tout pouvoir. Il y a quelque chose, il y a cette idée au fond. Macron a été populiste d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire il y a lui et le peuple. Et donc, on parle toujours de rupture d'un lien social, mais je pense qu'il y a eu aussi rupture d'un lien territorial. Et on s'en rend compte parce qu'au fond, la différence, elle n'a pas été évoquée, mais peut-être moi, la différence qui me semble la plus forte, c'est entre le vote des petites communes et puis le vote des grandes villes.
Revenir sur cette géographie dans quelques instants.
Mais oui, mais c'est sans doute le point essentiel.
Le point essentiel ?
Plus de 40%, un peu plus de 40% de vote aux européennes dans les communes de moins de 1000 habitants. Et on tombe, quand on arrive à Paris, à 8,5%. Et entre les deux, on trouve 20% pour les villes qui ont entre 50 et 200 000 habitants. Là, il y a vraiment un phénomène tout à fait particulier qui est plus large que les différences que vous avez vues tout à l'heure.
Mathieu Soulcaire, qu'est-ce qui vous frappe, vous ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ?
La nouveauté, assurément, depuis les européennes et confirmée par les législatives, c'est que désormais, la France du RN, c'est toute la France. Ben oui. Pendant très longtemps, c'était une France en miniature. C'est désormais quasiment une France grandeur nature. Pendant très longtemps, c'était d'abord les classes moyennes, rejointes ensuite par les catégories populaires au moment où la gauche au pouvoir a commencé de les décevoir. Oui. Mais désormais, vous avez ceux qui constituaient avant l'électorat de la droite traditionnelle, c'est-à-dire les cadres, les CSP+, et les retraités, qui désormais, en fait, sont du côté de l'extrême droite. Avec autre chose, et c'est ce qui fait...
Très grosse progression chez les cadres et les retraités.
Hein. Énorme.
Plus 11 points, plus 19
énorme
points, en tout cas, dans nos...
C'est ce qui fait que le ressort qu'on a toujours invoqué, qui est celui de la colère, en réalité, ne suffit plus.
Ça ne suffit plus.
Non, ce ne sont pas que les gens qui sont en colère parce qu'ils vont mal. On a vu qu'à Paris, dans le 16e arrondissement, l'extrême droite toute mouillée, c'est-à-dire Reconquête plus le RN, ça fait un quart des voix. Et c'est une France qui va plutôt bien, ou en tout cas, on voit bien qu'au plan économique et social, c'est une France qui va plutôt bien. C'est là que l'extrême droite a gagné sa bataille culturelle, sa bataille idéologique autour de la question identitaire, confondue avec la question migratoire et la question sécuritaire, parce que quand même, il y a précisément une dimension dans l'électorat de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qu'on retrouve quelles que soient les catégories en fait, qui composent sa sociologie, c'est quand même, j'allais dire, l'obsession migratoire, ou en tout cas la question migratoire qui écrase toutes les autres. Ça ne veut pas dire que la question du pouvoir d'achat n'est pas présente, ça ne veut pas dire que la question des services publics n'est pas présente, mais en tout cas, le point commun, c'est la question migratoire. Et personne n'ignore que derrière l'extrême droite, même si elle a policé son discours, il y a le fil à plomb de la préférence nationale.
Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je pense qu'il ne faut pas confondre question identitaire et question migratoire, même s'il y a une porosité entre les deux sujets.
C'est ce que voulez-vous dire ?
Je veux dire que c'est une des expressions, la question migratoire, de la question identitaire. Mais la question identitaire, elle est beaucoup plus large que cela. Et d'ailleurs, on voit que cette question identitaire... elle infuse dans l'ensemble du monde occidental. Il n'y a qu'à suivre, par exemple, la campagne de Donald Trump aux États-Unis pour voir des discours sur l'Amérique profonde qui ressemblent terriblement aux discours que l'on entend chez les sympathisants du Rassemblement national. Et cette affaire qu'on est en train de perdre une identité, même dans des moments où il n'y a pas des endroits où il n'y a pas d'immigration. Tout ce qui a été fait sur qu'on a soutenu et qui était sans doute intelligent, on change le nom des communes, on regroupe les communes, on a fait des pertes d'identité, des pertes de convivialité.
Dans des domaines très différents, si je vous suis bien.
Oui, dans des domaines très différents. Moi, je l'ai observé dans la circonscription que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 25 ans. Tout d'un coup, on débaptise des communes, on les regroupe. Il y a des communes qui n'ont plus d'élus, parce que comme on met des élus...
On leur a changé leur pays sans leur demander leur avis.
On leur a changé leur pays. Il n'y a pas un immigré. On leur change leur pays. Et ils ont le sentiment que cette identité, elle est menacée. Et ça, c'est quelque chose... Alors, la question migratoire en fait partie, mais elle n'est pas la seule chose. Et il ne faut pas confondre identité et immigration.
Charles Sapin, vous prenez en charge ce distinguo ? Enfin, en tout cas, vous le...
Oui, totalement. Et d'ailleurs, on voit une sorte de... Vous parliez du monde occidental. Et c'est très marquant. Moi, j'ai eu la chance cette dernière année de faire une tournée en Europe, d'aller dans différents pays européens pour analyser... cette poussée nationaliste qu'on voit d'un bout à l'autre du continent. Alors, chaque pays a un peu des explications propres, mais on voit des ressorts identiques d'un pays à l'autre. Et c'est exactement ce que vous soulignez. Il y a, premier ressort, la faillite des partis traditionnels à apporter une réponse pérenne à la question de l'immigration, que ce soit par l'intégration ou par la réduction des flux. Il y a cette question d'une partie de la société européenne qui se sent en fait héritière d'un mode de vie. C'est pour ça, même j'irai plus loin que l'identité, c'est un mode de vie. Oui, d'un mode de vie qui vient de nos grands-parents.
Remise en cause.
De nos parents.
Bousculés.
Qu'ils aimeraient bien transmettre à leurs enfants, mais tout en voyant leur mode de vie attaqué par plusieurs choses. Ça peut être, selon certains pays, selon certaines personnes, ils le voient attaqué par un entrisme islamiste ou par des revendications sociétales radicales. Et puis, il y a un autre moteur qui est très intéressant et qui rejoint le mode de vie, c'est la polarisation nouvelle sur la question environnementale. Il y a 10 ans, si vous voulez, l'environnement, ça créait une forme d'unanimisme.
Oui.
Ce n'est plus
personne n'était contre, on va dire.
Exactement. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi ? Parce que si tout le monde veut préserver l'environnement, personne aujourd'hui ne veut faire partie de ceux sur qui va reposer les sacrifices nécessaires à la préservation de cet environnement. C'est ce qu'on a vu, et c'était pas il y a si longtemps, c'était en janvier dernier, avec ces manifestations de tracteurs qui sont partis des Pays-Bas, qui ont contaminé l'Allemagne, la France et un peu partout.
Et les 80 km/h.
Exactement. Et vous parliez des communes avec ces noms de communes qui ont été renversés. On est exactement là-dedans. Et on voit tout ça en France avec un ressort qui est très particulier à la France, qui est l'anti-macronisme, qui fait que le RN, comme vous l'avez dit, atteint 10 500 000 voix au premier tour d'une législative. C'est inédit. Il faut dire juste que c'est un score qui est supérieur au nombre de voix enregistrées par Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle de 2017. Il faut se rendre compte de cette rupture.
Ah, Amandine Natalia, est-ce que ce sont surtout des Français qui finalement ne se sentent pas écoutés par le pouvoir, qui votent pour le RN, un gouvernement parisien déconnecté avec des chaussures trop vernies, disait Gérald Darmanin récemment.
C'est son grand combat, parce que lui a toujours dit...
Ma question, c'est pas Darmanin, c'est est-ce que vous pensez que ça existe ?
Alors, il y a un fait, oui, déjà, ce dernier gouvernement de mémoire était le plus parisien, Île-de-France, depuis des années, et quand il a été nommé, on avait regardé justement d'où venaient les uns et les autres, et il se trouve qu'il y avait... à peu près personne qui venait de ville ailleurs, dans des régions ou départements.
Alors que c'est une question qu'on se posait, est-ce qu'il y a un Breton, est-ce qu'il y a un Corse
de France? Non, mais ça dit aussi quelque chose pour les gens qui se sentent là aussi moins représentés et peut-être encore plus déconnectés.
Moi, peut-être parce que je suis parisien, ça m'a toujours choqué quand on commençait à faire « alors il vient d'où ?»
Mais... Bah, disons que
mais je fais pas semblant de pas le comprendre.
Hein. Non, mais en fait, ça s'accroît depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron jusqu'à prendre des proportions où...
La prochaine fois, j'irai ça manque de franciliens. Les gens de Boulogne-Billancourt ne sont pas assez représentés.
Non, mais Gabriel Attal en était un exemple parfait. Par exemple, quand il a été nommé...
Raisonnez pas comme un...
Moi, j'ai même pas entendu.
Non, pardon, j'ai dit une bêtise.
Surtout pas.
Non, non.
Répétez-la.
Mais non, je disais, la prochaine fois, ça manque de franciliens, il n'y a pas assez de gens de Boulogne-Billancourt.
Ah, oui. Mais Gabriel Attal, pour finir, le Premier ministre, était un exemple parfait, précisément, élevé dans le 6e arrondissement de Paris, à peu près jamais sorti de là, ayant fait toutes les grandes écoles. Bon, ça contribue à ce que certains Français se sentent déconnectés. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le populisme à tout craint. Il est normal aussi que notre classe politique, je veux dire, qui fait parfois des études longues, aille les faire dans des grandes villes. Il y a un enchaînement assez normal et logique là-dessus. Après, on ajoute le président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas été, jamais été un élu local, ça contribue aussi peut-être
la phrase de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. Tous les Français votent contre le cumul des mandats.
Deuxième citation de la soirée.
Écoutez, quand on interdit le cumul des mandats, on aboutit à ça.
Oui, mais il n'empêche que Emmanuel Macron, qui a d'autres qualités, ne semble pas être le mieux informé de ce que pensent les Français aujourd'hui.
Hervé Le Bras, vous évoquiez tout à l'heure les grandes villes et les petites villes et les conséquences que ça avait sur le vote. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de se dire « je vote RN, là je vais me faire entendre », c'est-à-dire une façon de s'affirmer en politique pour que sa voix soit entendue, notamment dans les zones rurales?
Oui, non, je pense que ça joue. Et ce qui joue aussi est que à partir du moment où il y a une masse RN suffisante dans un petit endroit et tout ça, ça recrute. Il y a un effet de contagion, absolument. Quand on voit la hausse du vote RN entre le premier tour de Marine Le Pen en 2022 et puis les européennes, la hausse est plus forte là où le RN avait déjà ses scores les plus élevés. On pourrait penser qu'il y a un plafond.
C'est pour ça que vous parlez de contagion.
Oui, je pense qu'il y a un effet de contagion parce que c'est devenu quelque chose de... Juste, vous l'avez dit vous-même, c'est devenu quelque chose qui exprime la réalité de cet éloignement, de comment manifester cet éloignement. Mais il y a un autre point qui concerne cette question dont on agite, c'est, il me semble qu'il y a des tas de causes lointaines, si on peut dire, qui se sont progressivement accumulées, mais il y a quand même un fait qui était souligné par l'introduction, c'est le saut brusque entre 2022 et 2024. Là, il y a quelque chose, à mon avis, qu'il faut chercher à comprendre, parce que c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui n'est pas, par exemple, aux États-Unis de Trump, qui n'est pas non plus l'Italie, ça s'est construit très progressivement. Là, tout d'un coup, on fait un saut brusque. Donc, que s'est-il... Alors, vous pouvez avoir des hypothèses.
Mais quelles sont vos hypothèses à vous ?
L'affaire des retraites, d'abord. Il me semble que l'affaire des retraites a condensé d'abord des peurs des Français concernant leur avenir, mais aussi le manque de démocratie, sur lequel j'ai dit un mot au début. C'est-à-dire, on a vu qu'à la fois, il y avait des ficelles. Alors, il y avait le 47-1, le 49-3, le fait de faire la réforme dès septembre, comme ça, on pouvait utiliser le, je ne sais plus quel véhicule, vous devez connaître ça, Madame Bachelot.
Oui, c'est ça. Les lois de financement de la sécurité sociale.
Ça jouait un rôle très important parce que, l'aspect que Macron avait de outre-jupitérien, d'un peu dominer l'économie, de la comprendre, est apparu menacé. Et puis son aspect démocratique est apparu encore plus menacé.
Est-ce que vous pensez que la réforme des retraites n'est toujours pas digérée? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une suite électorale de la crise des Gilets jaunes que l'on vit aujourd'hui?
Ce qui est sûr, c'est que la réforme des retraites a coûté cher à Emmanuel Macron. Et encore une fois, le score d'Emmanuel Macron aux élections européennes, par exemple, les 15%, ne sont pas catastrophiques en soi. 15% après 7 années d'exercice du pouvoir et l'usure associée, c'est pas si pire. En 2014, la gauche faisait moins que ça après seulement 2 années de François Hollande. Ce qui est frappant, c'est de voir que précisément la réalité sociologique du vote en faveur d'Emmanuel Macron aux européennes est une France en décalage total avec la réalité du pays. Il ne reste plus que les personnes âgées et les personnes aisées. Et c'est ça en réalité le plus dangereux. Encore une fois, il y a une droitisation, pour répondre à votre question, il y a une droitisation des opinions européennes en général et de l'opinion française en particulier. Là, on voit bien qu'on a 3 blocs, avec un bloc de gauche autour de 30%, un bloc de droite, c'est-à-dire la Macronie plus LR, autour de 30%, et un bloc d'extrême droite légèrement au-dessus de 30%. Donc si vous additionnez la droite traditionnelle et l'extrême droite, on est largement au-dessus de la majorité. Mais ce qui est frappant, c'est de voir qu'une partie significative de l'électorat républicain, des républicains, a dérivé vers l'extrême droite. Il y a une extrême droitisation de la droite. Et c'est ça qui est frappant. Et du coup même, alors effectivement, dans les grandes villes, on reste encore préservé du risque de l'extrême droite. Mais notons qu'à Paris, je parlais du 16e arrondissement qui vote à 25% pour l'extrême droite, en moyenne, c'est 15%. Autrefois, l'extrême droite ne dépassait jamais les 5%. Et maintenant, c'est Reconquête qui arrive devant le Rassemblement
national. Dans les vieilles terres chrétiennes de l'Ouest qui ont été très longtemps un rempart contre le Rassemblement, le Front National, et dont j'ai été élu pendant 40 ans, toutes les digues ont sauté.
Vous avez totalement raison. Il y a une circonscription qui est passionnante. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'est la première circonscription des Landes. Alors, je vous explique. On est au sud-ouest de la France, c'est la France de gauche d'Henri Emmanueli, pour ceux qui s'en souviennent. C'est Mont-de-Marsan.
C'est Valot.
Exactement. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu le Rassemblement National, un petit peu à la télé, mais vraiment très rapidement. Oui. Il faut savoir que le RN a présenté une candidate. C'était sa première campagne, elle n'est pas vraiment rompue à l'exercice. D'accord. Elle est arrivée très très largement en tête, je crois de mémoire 37-38%. 10 points devant la personne arrivée en seconde place, c'était une candidate Renaissance qui s'appelle Geneviève Darrieussecq, qui a été plusieurs fois ministre, qui est maire de Mont-de-Marsan, qui a été président de la communauté d'agglomération, qui a été conseillère régionale, conseillère départementale, qui est enracinée dans ce territoire qui était terra incognita du RN mais depuis des siècles.
On va régler quel compte ? Ces électeurs, ils vont régler quel compte ?
Ils vont régler
avec le pouvoir macroniste.
Eh bien, si vous voulez, c'est les ressorts dont on parlait, c'est-à-dire un rejet extrêmement violent et extrêmement fort du chef de l'État après 7 ans au pouvoir, corrélé à une adéquation entre ce que sont les totems historiques du Rassemblement national et les principales préoccupations des Français. Pouvoir d'achat, immigration, insécurité. Et quand vous parliez du saut important entre 2022 et 2024, il y a aussi une cause d'explication. Et ça a été souligné très bien. C'est les femmes. En fait, les hommes bien plus majoritaires, votaient bien plus facilement sur le RN. Aujourd'hui, il y a autant de femmes.
C'était un vote masculin très longtemps.
Lors des européennes, vous avez une progression de 13 points des femmes, alors que cette progression n'est que de 3 points pour les hommes. Pourquoi ? Un, parce que Marine Le Pen a dématchisé, si je peux me permettre l'expression,
le RN.
Le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui était un peu viriliste. Jordan Bardella, qui est finalement cette
un chouïa viriliste.
Qui a abandonné des thèmes comme le refus de l'avortement ou de la contraception, etc. Et ça faisait un rempart. Le vote féminin n'adhérait pas.
Et à mon sens, il y a un troisième vecteur aussi qui fait que les femmes votent de plus en plus pour le Rassemblement National. C'est aussi l'écho de cette multiplication d'agressions, et notamment sexuelles, et en fait qui rejoint cette thématique de l'insécurité. Les femmes sont plus nombreuses à faire le lien entre insécurité et immigration.
Mais encore une fois, s'il y a longtemps eu le rejet et la colère, et du coup même une part de vote honteux à l'extrême droite, on n'en est plus là du tout. Oui. Et c'est toute la force de Marine Le Pen, qui a elle-même, à travers sa stratégie de dédiabolisation payante, rendu l'extrême droite acceptable, présentable, mais avec quelque chose de nouveau avec le phénomène Bardella, car il y a bien un phénomène Bardella. On est passé d'une extrême droite acceptable, présentable, à une extrême droite désirable et qui s'assume, et y compris encore une fois dans l'électorat de la bourgeoisie classique pour laquelle jusqu'à présent ça ne se faisait
pas inabordable
de voter pour l'extrême droite, ça n'était pas convenable et désormais ça le devient.
Hervé Lebras.
Oui, dans ma question il y avait quand même, j'ai laissé de côté et ça va répondre aux questions sur Paris, l'agrégation de l'électorat de Reconquête. La Reconquête a quand même fait 5,5% au présidentiel, au premier tour. Et il a été absorbé cette fois-ci, puisqu'il ne reste que, je crois, même pas 1% à Reconquête dimanche dernier. Et ça, c'est un électorat très particulier. Un électorat qui était justement dans les beaux quartiers. C'était à Paris, c'est le 16e arrondissement où Reconquête a fait un score, je crois, 17%.
Hervé Lebras, j'aimerais que vous gardiez la parole pour qu'on évoque le vote des jeunes électeurs. 48% des 18-24 ans ont choisi de voter pour la gauche, 33% pour le RN, 33%, et seulement 9% pour la majorité sortante. Plus que jamais, ce vote de la jeunesse, visiblement, se radicalise d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Mais, enfin, voilà, 33% au RN, ça...
C'est beaucoup.
Ça me paraît énorme.
42% à gauche, il faut bien voir que les jeunes sont beaucoup plus sensibles à la question écologique que les autres. D'ailleurs, on les comprend, ça les concerne beaucoup plus que nous. Donc là-dedans, la gauche telle que le console les jeunes, même s'ils ont voté parfois pour des candidats...
Pratiquement 50% qui votent à gauche d'une façon ou d'une autre, ça reste dans la norme ou c'est en baisse? 48% des 18-34 ans ont voté pour la gauche.
C'était déjà le cas au premier tour des présidentielles. Oui. Ça dure, mais je pense que c'est très lié à la question écologique, parce que tous les enquêtes montrent que c'est eux qui mettent ça quelquefois en deuxième position ou en première position.
Vous voulez une autre citation, Yves ?
Oui, si ça vous
quand
fait plaisir.
Quand on vote à 18 ans pour la droite, c'est qu'on n'a pas de cœur, et quand on vote à 30 ans pour la gauche, c'est qu'on n'a pas de cerveau.
Abandine Atalaya, avant de se séparer, le président a essayé de s'adresser prioritairement justement aux jeunes électeurs via les réseaux sociaux, les podcasts, les influenceurs. Zéro effet.
Oui.
En tout cas, ça n'a pas eu un grand effet dans les urnes, je vais le dire moins brutalement.
Non, mais parce que d'autres ont investi davantage ces terrains-là. Jordan Bardella, par exemple, sur TikTok, dont on entend sans cesse parler, travaille ça depuis plus longtemps. La gauche et Jean-Luc Mélenchon aussi ont labouré ce terrain-là il y a maintenant...
Il est arrivé trop tard ou ils sont trop nombreux? Quelle est votre analyse?
Peut-être n'a-t-il pas non plus complètement les codes. Enfin, il faut avoir des équipes autour aussi qui font... Et puis, il a moins d'électorat jeune de fait, donc moins de personnes sensibles à ce qu'il peut essayer de faire sur les réseaux sociaux que des leaders comme Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon.
Merci à tous.